Vous écoutez, on lit pour vous.
Des chiffres et des gestes, un texte de Stéphane Laporte paru le 19 janvier 2025 dans La Presse. La vie est injuste pour de nombreux Québécois et Québécoises. Et si vous êtes une personne handicapée, vous avez encore plus de chances qu'elle le soit avec vous. Ou devrais-je écrire « Et si vous êtes une personne handicapée, vous avez encore plus de malchance qu'elle le soit avec vous. » 16% des personnes au Québec n'ont aucun certificat, diplôme ou grade de scolarisation. 25% des personnes handicapées au Québec n'ont aucun certificat, diplôme ou grade de scolarisation. 20% des personnes âgées de 25 à 64 ans au Québec sont sans emploi. 33% des personnes handicapées aptes au travail âgées de 25 à 64 ans au Québec sont sans emploi. 5% des personnes au Québec vivent dans un logement considéré comme inadéquat. 14% des personnes handicapées au Québec vivent dans un logement considéré comme inadéquat. 10% des personnes au Québec vivent de l'intimidation ou de la cyberintimidation. 21% des personnes handicapées au Québec vivent de l'intimidation ou de la cyberintimidation. Ces statistiques indiquent combien la réalité des personnes handicapées est beaucoup plus sombre que celle des autres membres de la société. C'est tellement criant que ça devrait être la priorité de nos gouvernements. L'accès aux études est plus difficile. L'accès au marché du travail est plus difficile. L'accès à un logement adéquat est plus difficile. L'accès au respect est plus difficile. Et bien sûr, l'accès au transport, au commerce, aux endroits publics, aux divers lieux est plus difficile. Chacun est responsable de ce qu'il fera de la scolarisation reçue, de l'emploi obtenu, mais encore faut-il la recevoir, cette scolarisation? Encore faut-il l'obtenir, cet emploi? Avoir accès, c'est un début, ce n'est pas une fin. Tout le monde devrait avoir accès au début. Des injustices, il y en aura tout le long du parcours, peu importe son état de santé, mais chaque personne doit avoir le droit de prendre le départ. De faire partie de la course, qu'elle termine première ou dernière, c'est son affaire, mais chaque personne doit recevoir un dossard. Dans la grande randonnée de la vie, il manque encore trop souvent de dossards pour les personnes handicapées. Un endroit public qui ne donne pas accès à tous les publics, quel qu'il soit, est un endroit handicapé, bien plus que les gens qui ne peuvent pas s'y rendre. Un employeur qui discrimine les personnes handicapées est un employeur handicapé bien plus que les gens qu'il refuse d'engager. Un malentendant est bien plus à l'écoute des autres que lui. Une fois ces constats exposés, qu'est-ce qu'on fait? L'Office des personnes handicapées du Québec a décidé, tous les deux ans, depuis 2008, de récompenser tous ceux qui font quelque chose. Tous les individus et les organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. En 2023, le prix À part entière a rendu hommage à Pierre-Yves Lévesque, qui a consacré sa vie à faire avancer les dossiers de l'accès à l'emploi, des services de soutien à domicile, du transport public, de l'aménagement urbain et des chiens d'assistance. On a aussi reconnu l'importance de l'organisme Les Impatients, qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale en organisant des activités artistiques. On a souligné la refonte du programme d'intervention en mesure d'urgence auprès des personnes handicapées, effectué par la ville de Saguenay, ce qui a permis à un plus grand nombre de bénéficiaires de s'inscrire. Le prix a aussi été décerné à l'école secondaire Chanoine-Baudet dans le Bas-Saint-Laurent, pour avoir créé la Fabrique ESCB, un plateau de stage axé sur la cuisine auquel participent principalement des élèves handicapés. Grâce à leur service, c'est toute l'école qui bénéficie de bons petits-déjeuners. On a mis en valeur l'initiative des hôtels Fermont de l'Est du Canada, qui a lancé un projet pilote avec l'école À pas de géant pour favoriser l'embauche inclusive. Ce sont les premiers employeurs au Canada à avoir développé un programme de soutien complet visant spécifiquement les employés ayant un trouble du spectre de l'autisme. Une mention coup de cœur a été remise à Michel Lepage, un militant dévoué pour les droits des personnes sourdes. Il y a tant à faire, mais heureusement, il y en a tant qui font. Grâce à tous ceux qui posent des gestes, les chiffres changent. Plus tôt, vous avez pu lire que selon les statistiques les plus récentes, celles de 2022, la proportion de personnes handicapées sans emploi âgées de 24 à 64 ans était de 33 %. Sachez qu'en 2017, la proportion était de 44 %. En 5 ans, il y a eu une augmentation de 11 points de pourcentage du nombre de personnes handicapées sur le marché du travail. On s'en va dans la bonne direction grâce à ceux qui ouvrent le chemin. Si vous connaissez des individus ou des organisations qui font leur part pour que les personnes handicapées aient la leur dans notre société, inscrivez-les au prix à part entière 2025 en vous rendant sur le site de l'événement. Il y a deux façons de faire avancer les choses, en donnant des tapes dans le dos ou en donnant des coups de pied dans le cul. Continuons à donner des tapes dans le dos, ça donne aux gens qui les méritent le courage de poursuivre leur idéal et ça donne aux gens qui prennent connaissance de leur travail le goût de les imiter. Et si c'est pas assez, on se servira de nos pieds. C'était « Des chiffres et des gestes », un texte de Stéphane Laporte, paru le 19 janvier 2025 dans La Presse.
Un excès de fructose accélère le développement du cancer, un texte de Richard Béliveau, paru le 19 janvier 2025 dans le Journal de Montréal. Une étude suggère que la hausse du risque de cancer associé à un apport élevé en fructose est causée par une surproduction par le foie de lipides utilisés par les cellules cancéreuses pour leur croissance. En raison des effets bien documentés de l'excès de sucre sur la hausse du risque d'obésité et de plusieurs maladies cardio-métaboliques, l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de sucre libre à moins de 10 % de l'apport énergétique quotidien, ce qui correspond à environ 30 grammes ou 7 cubes de sucre. Cette recommandation demeure malheureusement peu suivie. Au Canada, par exemple, la consommation d'aliments riches en sucre libre, boissons sucrées, collations, desserts et pâtisseries en particulier, est très élevée et mène à un apport moyen supérieur à 100 grammes de sucre libre par jour, soit plus de 3 fois la quantité maximale suggérée. Fructose et glucose, deux sucres très différents. Les deux principales formes de sucre libre consommées sont le sucrose et le sirop de maïs enrichi en fructose, high fructose corn syrup ou HFCS. Les deux sont constitués d'un mélange de glucose et de fructose, mais dans des proportions différentes. Alors que le sucrose est formé de 50 % de glucose et 50 % de fructose, le HFCS contient plutôt 45 % de glucose et 55 % de fructose. Puisque le fructose a un goût plus sucré que celui du glucose et est moins dispendieux que ce dernier, le HFCS est très souvent utilisé dans la fabrication des aliments industriels, les boissons sucrées notamment. Même si le glucose et le fructose ont la même formule chimique, C6H12O6, ils ont des structures très différentes qui influencent grandement la façon dont ils sont métabolisés. Alors que le glucose est facilement absorbé par l'intestin et transporté dans le sang pour être utilisé comme source d'énergie par l'ensemble des cellules du corps, le fructose est, quant à lui, surtout accumulé au niveau du foie, où il est transformé en graisse. En cas d'apport démesuré en nourriture, comme c'est le cas chez les personnes obèses, la quantité de graisse au niveau du foie devient trop élevée et peut causer une stéatose hépatique. C'est ce principe qui est à l'œuvre lorsque les oiseaux sont gavés avec un aliment riche en fructose, le maïs, par exemple, pour produire du foie gras. Cette accumulation anormale de graisse hépatique est très inflammatoire et peut augmenter les risques de maladies du foie, de diabète de type 2 et d'hypertension. Un coup de pouce aux cellules cancéreuses. On a souvent rapporté que le fructose était cancérigène chez les animaux de laboratoire, mais cet effet demeurait mystérieux étant donné que, 1. Plus de 95% du fructose ingéré n'atteint pas la circulation sanguine et ne peut donc servir de source d'énergie pour les cellules cancéreuses. 2. La plupart des cellules cancéreuses ne possèdent pas les enzymes nécessaires pour utiliser le fructose comme carburant pour soutenir leur croissance. Étonnamment, une étude récente suggère que c'est plutôt la surproduction de graisse au niveau du foie en réponse à un excès de fructose qui serait responsable de cet effet pro-cancéreux. Les chercheurs ont observé que l'addition à l'alimentation d'un excès de fructose, sous forme de sirop de maïs, provoquait une hausse très importante des taux sanguins d'une classe d'acides gras, l'isophosphatidylcholine, qui sont utilisés par la suite par les cellules cancéreuses pour fabriquer les membranes cellulaires indispensables à leur croissance. Autrement dit, même en n'ayant aucune interaction directe avec les cellules cancéreuses, le fructose parvient tout de même à participer activement à la progression du cancer en raison des perturbations métaboliques qu'il provoque au niveau du foie. Réduire l'apport en sucre ajouté n'est donc pas seulement une bonne façon de maintenir un poids corporel normal, mais aussi d'éviter de créer des conditions propices au développement du cancer. Lire attentivement les étiquettes des produits alimentaires d'origine industrielle est donc un aspect important de la prévention des maladies chroniques. C'était « Un excès de fructose accélère le développement du cancer », un texte de Richard Béliveau paru le 19 janvier 2025 dans le Journal de Montréal.
Je n'ai jamais voulu me définir par mon handicap. Contre tous les pronostics, elle entre au cégep en montage vidéo. Un texte de Maud Larrain-Kieran, paru le 19 janvier 2025 dans le Journal de Montréal. Atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance, une jeune Montréalaise vient de commencer le cégep en montage vidéo, défiant les pronostics qui, pendant son secondaire, laissaient présager qu'elle ne pourrait jamais y arriver. Citation. On m'a dit que c'était impossible d'atteindre mes rêves à seulement 16 ans. Fin de citation. Se souvient Claudia Bertrand, qui vient d'entreprendre ses études collégiales. Ayant reçu le diagnostic d'une paralysie cérébrale lorsqu'elle est née, Claudia a toujours vécu avec des limitations motrices dues à sa paralysie. Citation. Ça affecte mes bras, mes jambes et mon élocution. Fin de citation, mentionne-t-elle. Déterminée à vivre de façon autonome, la jeune femme de 24 ans habite dans un appartement adapté à Montréal, se déplace seule dès que possible et pratique même la boxe comme passe-temps. Citation. Je n'ai jamais voulu me définir par mon handicap. Fin de citation. Explique celle qui a dû surmonter de nombreux obstacles pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Plusieurs embûches. À 16 ans, dans son école spécialisée, on l'oriente vers le secteur de formation préparatoire au travail, une voie qui ne mène pas aux études supérieures. Citation. Obtenir mon secondaire puis aller étudier en montage vidéo, pour eux, ce n'était pas envisageable. Fin de citation. Relate-t-elle, se remémorant leur rencontre avec ses parents et les spécialistes. Cette décision ébranle profondément sa confiance. Citation. Je suis sortie de cette réunion-là, puis je me suis enfermée dans ma chambre, puis je ne voulais plus rien savoir de l'école. Je me sentais vraiment mal. Fin de citation, confie-t-elle. Le déclic. C'est sa participation au documentaire « Engagez-moi » en 2020 qui change la trajectoire de sa vie, grâce à une recherchiste qui l'a suivie dans son parcours de recherche d'emploi. Citation « Elle a vu mon potentiel », fin de citation, raconte Claudia, qui s'inscrit alors dans un centre d'éducation des adultes régulier. Elle effectue son secondaire avec les mêmes exigences que celles qui sont partagées par tous les autres élèves. Citation « Ça fait du bien de ne pas m'identifier à une petite fille handicapée et plus à une fille qui veut étudier et travailler. » Fin de citation, affirme celle qui vient d'obtenir son DES. Maintenant que tout semble possible, elle espère trouver un emploi dans son domaine. « C'est mon but ultime », exprime-t-elle. C'était « Je n'ai jamais voulu me définir par mon handicap. » Contre tous les pronostics, elle entre au cégep en montage vidéo. Un texte de Maud Larrain Kieran, paru le 19 janvier 2025 dans Le Journal de Montréal.
La détresse silencieuse. Agir maintenant pour la santé mentale des jeunes du Québec. Un texte de Fred William Miro, paru le 10 octobre 2024 dans le Journal de Montréal. La santé mentale des jeunes est à un point critique, et il est temps d'agir. Les récentes statistiques provenant de la 7e édition de l'étude sur les milléniaux de Léger révèlent une réalité troublante. Près de la moitié des membres des générations Y et Z, 48%, déclarent avoir déjà vécu un épisode dépressif, une hausse inquiétante de 10 points par rapport à 2020. Derrière ces statistiques se cachent des drames humains. L'échec à un examen, l'abolition d'un poste, la mort d'un proche. Le portrait de l'anxiété est tout aussi alarmant, avec près des trois quarts des jeunes, 75%, ayant vécu un épisode anxieux, contre 45% il y a seulement 4 ans. Les mesures de confinement ont eu un impact majeur sur leur santé mentale à une période cruciale de socialisation, ce qui fait craindre un fossé générationnel. Le coût de l'inaction. Cette détérioration rapide de la santé mentale des jeunes a des conséquences profondes, non seulement sur le bien-être individuel, mais aussi sur la société québécoise dans son ensemble. La situation est particulièrement alarmante au sein des communautés des Premières Nations. Les jeunes sont 6 fois plus susceptibles de mourir d'un suicide. Les coûts liés à la santé et à la détresse qui en découlent représente non seulement un défi économique, mais surtout un enjeu humain. Au Québec, l'inaction en matière de santé mentale a un coût exorbitant, estimé à 18 milliards de dollars par an, selon une recherche actuarielle produite par Force Jeunesse. Cette somme considère non seulement les soins médicaux directs, mais aussi les pertes de productivité, l'absentéisme et les allocations de soutien. Derrière ces chiffres se cachent des vies interrompues, des projets abandonnés et un potentiel humain gaspillé. Malheureusement, l'accès aux soins psychologiques reste insuffisant. Les délais d'attente pour voir un professionnel sont souvent trop longs, en particulier en région, et les coûts restent prohibitifs pour une large part de la population. Pourtant, nous savons que des solutions existent. Selon l'INES, chaque dollar investi dans les soins de psychothérapie permet d'en économiser 2, non seulement en réduisant les coûts liés aux soins de santé, mais aussi en prévenant les complications à long terme. Une approche proactive pour un avenir en santé. C'est dans ce contexte que Force Jeunesse, en collaboration avec d'autres organisations jeunesse, lance un appel à l'action en cette Journée mondiale de la santé mentale. Le Québec est fier de son système de soins de santé universel. Pourtant, un volet essentiel de ce projet de société est négligé : la santé psychologique. il est temps de compléter cette couverture en intégrant pleinement les soins en santé mentale dans le régime public d'assurance maladie. Cela passe notamment par un accès universel et gratuit à des consultations en psychothérapie, un service souvent inaccessible pour les personnes aux revenus modestes. Comme on l'entend souvent dans le monde politique, les jeunes générations sont l'avenir de notre société. Il est temps pour le gouvernement de passer de la parole aux actes en leur offrant les ressources nécessaires pour surmonter les défis qu'ils rencontrent. Investir dans la santé mentale aujourd'hui, c'est investir dans la résilience, la créativité et la prospérité future du Québec. Ce n'est ni un luxe, ni une dépense superflue. C'est une priorité sociale et économique. Il est temps que la santé mentale soit traitée avec la même importance que la santé physique, car investir dans la santé mentale, c'est investir dans l'avenir du Québec. C'était « La détresse silencieuse, agir maintenant pour la santé mentale des jeunes au Québec », un texte de Fred William Miro, paru le 10 octobre 2024 dans le Journal de Montréal.
Le témoignage touchant de Samuel Poulain, un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 22 janvier 2025 dans la presse. Il y a 2 ans, Samuel Poulain a mis sa carrière de hockeyeur sur pause afin de soigner sa santé mentale. Le jeune homme a reçu beaucoup d'aide et il souhaite maintenant redonner. C'est ce qu'il a fait mercredi en publiant un long témoignage sur son compte Instagram détaillant tout ce qu'il avait vécu avant de demander de l'aide. « Le 4 décembre 2022, ma vie a changé à jamais », affirme-t-il. Ce jour-là, Poulain et les Penguins de Wilkes-Barre-Scranton, club-école des Penguins de Pittsburgh, jouaient à Hershey. Quelques semaines plus tôt, je venais de jouer mes 3 premiers matchs dans la Ligue nationale. J'avais atteint mon rêve de jeunesse après beaucoup d'efforts et de sacrifices, rappelle-t-il. Sauf que c'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. On m'a renvoyé dans la Ligue américaine, mais l'envie de jouer au hockey et la motivation n'étaient plus là. Ça me demandait de plus en plus d'efforts pour me lever le matin et aller à l'aréna. Tout ce que je voulais faire, c'était dormir et m'isoler. Je n'avais jamais appris comment gérer des émotions difficiles et je ne voulais pas en parler. Je me disais que si je m'ouvrais à mes coéquipiers et à mes coachs sur le fait que je n'avais pas le goût de venir à l'aréna, ils diraient que je suis un faible, un lâche. Je me faisais des scénarios dans ma tête et j'ai tout gardé pour moi. Sauf que le 4 décembre, ma tête et mon corps n'en pouvaient juste plus. C'est au premier entracte de ce match qu'il a posé un genou par terre. Je sentais que j'allais exploser. J'ai quitté le vestiaire pour prendre de l'air. Et c'est là que j'ai décidé d'en parler. J'en ai parlé au thérapeute de l'équipe. Je lui ai dit que je me sentais comme si j'étais commotionnée. Je me sentais étourdie, dans un brouillard, au ralenti. J'avais mal au cœur. Il m'a amenée dans une pièce à côté et, avec un coach, on a eu une discussion. Quand le coach m'a demandé ce qui se passait, j'ai éclaté en sanglots et j'ai pleuré pendant plus de 30 minutes. Je venais de vivre ma première crise de panique. Au tournoi des recrues de l'automne 2023, soit après son retour au jeu, Poulain s'était ouvert une première fois en entrevue avec un petit groupe de journalistes québécois. Cette fois, il a toutefois livré davantage de détails, notamment en identifiant des éléments qui l'ont mené dans cet état. D'abord, sa sélection au 21e rang du repêchage de 2019. être un choix de premier tour, c'est chouette, mais ça m'a tellement amené de pression et d'anxiété et je ne l'ai jamais vraiment géré. Est ensuite venue la pandémie de COVID-19. Poulet affirme avoir vécu 6 ou 7 quarantaines, dont 2 où il était enfermé seul dans une chambre d'hôtel. Il ne pouvait même pas sortir pour prendre de l'air. Les humains, on est des créatures sociales et je ne savais pas qu'être seul aussi longtemps allait m'affecter, ajoute-t-il. L'attaquant raconte aussi avoir vécu un accident traumatisant qui lui a causé un choc post-traumatique, une rupture vraiment difficile, et il a perdu 2 proches. Je n'ai vraiment pas pris le temps de gérer aucun de ces événements et mon corps a fait un burn-out du hockey. Samuel Poulain. Dans son témoignage, Poulain s'ouvre aussi sur les moyens qu'il a pris pour combattre son mal, psychothérapie, antidépresseurs, méditation, yoga, respiration consciente et tenue d'un journal intime. Poulain considère cette pause comme la décision la plus difficile de sa vie. Je pensais que je laissais tomber mes coéquipiers. En dedans de moi, j'étais gêné. Je me sentais coupable et je ne voulais pas que personne le sache. Il ne regrette finalement rien. On est tous des humains et on vit tous des moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Mais notre santé mentale, il faut en prendre soin. C'est aussi important que notre santé physique ou spirituelle. Pour l'avoir vécu, je sais que ça peut être dur de s'ouvrir, mais croyez-moi, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour se choisir. Poulain a publié ses témoignages dans les 2 langues à ses quelques 13 000 abonnés Instagram. À 13 h mercredi, la version française avait été visionnée 17 000 fois. En anglais, la vidéo avait été lue 6 300 fois. Poulain fait toujours partie de l'organisation des Penguins. L'attaquant de 23 ans a disputé 6 matchs dans la LNH cette saison et 26 dans la Ligue américaine. C'était le témoignage touchant de Samuel Poulain, un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 22 janvier 2025 dans la presse.